Bienvenue en 2019 avec Radio B. Pour fêter cette nouvelle année, l'équipe de Radio B et ses bénévoles vous invitent à leur chronique spéciale 2019 le 21 janvier. Venez découvrir un mélange de talent et de bonne humeur lors de cette chronique spéciale nouvelle année. Donc rendez-vous le 21 janvier de 19 à 20h.
Année érotique, 2019 année pragmatique, 2019 année psychotique, 2019 année démocratique. Que de hic me direz-vous ? Et si 2019 était l'année des pronostics ? Un monde meilleur, un partage des richesses plus équitable, une planète bleue plus propre, des marchands d'armes en faillite, des bonnes ondes dans l'air. Celle de Radio B, le son depuis ses débuts le 1er septembre 2014. Tous les jours, nous vous gâtons, nous vous bichonnons, nous vous éduquons, nous vous informons. Jamais nous ne cherchons à vous vendre du temps de cerveau disponible entre deux messages d'intérêt collectif. Pour cela, à Radio B, nous avons mis en place une équipe de choc. Un bureau, 4 salariés, un volontaire en service civique et une cinquantaine de bénévoles et de partenaires prêts à en découdre avec la morosité des ondes. Notre objectif, vous convaincre que la radio est et reste l'outil de communication indispensable à tout citoyen qui se respecte. Ce soir, nous avons demandé à 7 membres de l'équipe de Radio B de nous présenter leurs vœux pour la nouvelle année. Leurs vœux, mais également leurs souhaits, leurs envies, leurs inquiétudes aussi et leur façon à elles de voir leur monde. 7 personnes qui vous prouveront, est-il besoin de le rappeler, que même si nous ne sommes pas des professionnels, nous ne faisons pas un travail d'amateur. Votre fidélité à travers le temps est le plus beau des compliments. 2019, vu par Radio B, c'est tout de suite et c'est nulle part ailleurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Radio B, comme le dit si bien notre ami et formateur Benoît Bouscarel, à qui l'on dédiera cette émission. Ce soir, nous évoquerons 2019. Comme elle n'a débuté que depuis 21 jours, il n'est pas encore possible de faire un premier bilan. À défaut d'inventaire, nous vous proposerons même des perspectives. Nous allons tirer des plans sur la comète et croyez-moi, vous allez en apprendre de bien belles sur votre avenir. La première, Madame Irma, a nous amené sa boule de cristal, est Cynthia. Elle sévit sur les ondes de Radio B le premier mercredi du mois, 7h30, 8h30 et 12h30, et nous parle avec son compagnon Rémi de la parentalité dans l'émission La Parentèle Enchantée, une émission à deux voix qui traite du bonheur d'être de jeunes parents en 2018. Qu'en sera-t-il en 2019 ? Quelles seront les astuces pour ne pas être les plus mauvais parents du monde ? Cynthia, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonne année.
Bonne année, eh oui, quelle belle présentation. Alors, qu'est-ce qui va souvent avec la nouvelle année, Michel ?
La bonne santé.
Ah oui, les vœux, autre
la
chose.
La galette des rois.
Qu'on prend plutôt vers le 1er janvier.
Des bisous à tout le monde.
Je peux répondre.
Ah, oui.
Les résolutions.
Ah oui, les bonnes résolutions. Alors, est-ce que vous en avez pris en studio ?
Oui. Énormément.
Et quoi donc ?
Une année extraordinaire.
Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, si on a les classiques, se mettre au sport et arrêter de fumer, commencer le deuxième en premier, petit conseil d'amis, il y a aussi des petites nouvelles en haut du tableau pour 2019. Bon, la plupart des bonnes résolutions tombent à l'eau avant même la fin janvier. Mais justement, je vais vous faire un tour d'horizon des résolutions durables et réalistes que vous pouvez encore prendre. Alors déjà, mieux consommer. Ça, c'est le thème de 2019. Alors, ne voyez pas jaune, mais quand même. L'idée n'est pas de culpabiliser ou d'accuser qui que ce soit, mais de revenir à un mode de consommation beaucoup plus simple et de faire un peu confiance aux anciens qui, finalement, n'ont peut-être pas tort quand ils dégrettent que c'était mieux avant. Alors, comment on fait ? Eh bien, quand on peut, on va se faire une petite balade au marché et on achète ses produits directement au producteur. On évite les plats préparés et on fait par soi-même. On remplace le jetable par du lavable ou du réutilisable. On évite les suremballages et on réduit les déchets. Oui, je sais que le chantier a l'air énorme dit comme ça, mais si de temps en temps vous arrivez à faire un de ces petits pas, c'est déjà super. Tiens, d'ailleurs, une autre résolution récurrente cette année. Arrêtez d'acheter des trucs inutiles. Avouez que, pour certains d'entre nous, l'ouverture de certains placards dans notre maison ferait immédiatement faire une syncope à Marie Kondo. Pour ceux qui ne savent absolument pas qui est cette personne, Internet est une source d'information sans faille.
Qui ça, Philippe ?
Marie Kondo, ah. Qui vous propose de garder les objets qui vous rendent du bonheur quand vous les prenez avec vous.
Elle et propose, de jeter le reste. Elle propose même de sélectionner des personnes de son entourage, hein, si j'ai bien suivi.
Ah. Oui, oui.
De faire le tri dans ses amis ou son entourage
proche. On ne garde plus
proche.
Que trois personnes C'est de sa ça. Famille, s'il vous plaît. Merci. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je l'avoue, j'ai tendance à accumuler au fil des années des choses qui ne me sont plus vraiment utiles. Et je râle car j'ai pas assez de place pour ranger. C'est un paradoxe. Alors sans vous forcer à désencombrer toute votre maison, on pourrait déjà commencer par réfléchir réellement à l'utilité d'un achat avant de le faire. On estime d'ailleurs que 50% des achats hors alimentaire pourraient être évités en se posant simplement la question de savoir si on en a réellement besoin et si l'on pourrait faire sans. Allez, you can do it. Une autre ? Prendre plus de temps pour sa famille et ou ses proches. Ça va avec ce qui a été dit avant. On cherche en 2019 à se concentrer sur l'essentiel. Et qu'y a-t-il de plus essentiel que la famille et ceux qu'on aime ? Alors, on casse le rythme infernal métro, dodo, boulot, même si pour le métro à Bourg-en-Bresse, ça va être compliqué. Et on prend le temps de profiter vraiment sans se parasiter la tête avec le patron relou ou la liste de courses pour le lendemain. Et on en vient à notre dernière résolution, que l'on pourrait rattacher à celle-ci d'ailleurs. Moins utiliser son téléphone en société. Et oui, on est dans une ère où la technologie et notre smartphone nous suivent partout et tout le temps. Alors certains profitent de la nouvelle année pour prendre l'engagement d'essayer de se séparer du saint objet, notamment quand ils sont avec d'autres personnes qui peuvent vite être gonflées, de n'avoir pour seule réponse un « un peu distrait » à une question à peine écoutée. Allez, je vous lance le défi. Ne serait-ce qu'au repas. Hop, on pose son téléphone, on souffle un grand coup et on partage un vrai moment convivial. Après, les mauvaises langues diront sûrement que la meilleure résolution finalement serait peut-être de ne pas en prendre. La question est de savoir pourquoi changer. Mais là-dessus, je vous laisse méditer en espérant que vous tiendrez vos bonnes résolutions ou pas, tant que l'année soit bonne.
Merci Cynthia. Le plus simple est quand même de ne pas avoir de résolution, hein, comme la grande Sophie.
Les bonnes résolutions m'envahissent la tête. Chaque année j'ai l'intention d'atteindre la perfection, de frôler tous les sommets. Les bonnes résolutions, j'en remplis des brouettes. Et c'est la compétition, les plus grandes décisions étalées sur des cahiers. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage. Et d'année en année, je n'ai fait que passer à côté de mes promesses. Quand arrive l'été, j'enrage. Je n'ai fait que passer, dommage. Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver. D'autres résolutions. Je suis une idéaliste. Alors je fais des listes. Je n'applique jamais, je supplie ma volonté, froide comme un glaçon. Elles sont si diverses et tombent en averse. Comme des révolutions, les bonnes résolutions tranquillisent mon esprit. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage. Et d'année en année, je n'ai fait que passer à côté de mes promesses. Quand arrive l'été, j'enrage. Je ne fais que brasser, dommage. Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver. D'autres résolutions.
J'arrête de fumer, je vais travailler. Un peu plus encore, cette année je fais du sport. Je m'organise et j'économise. Je fais des efforts et encore des efforts.
Je vais tout ranger. Je vais essayer de prendre du bon temps et cette fois au bon moment. Je m'améliore, je prends soin de mon corps. Je positive, j'ai des initiatives. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage.
Les bonnes résolutions, ça tombe bien. Jean-Louis n'en a pas non plus. Il a juste un souhait qu'il a exaucé et pas en espéranto. Vous le retrouvez un lundi sur deux à 7h30, 8h30 et 12h30 et le samedi à 12h dans l'émission « Les langues se délient, la parole à l'étranger ». Il va à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent à l'accueil des étrangers à Bourg-en-Bresse et dans les environs. Ce soir, il tentera de nous faire croire que le co-tracteurage à la campagne, ça marche aussi, à moins de ne pas avoir tout compris. Jean-Louis, bonsoir.
Eh bien, Michel.
Bonsoir.
Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
Oui.
Ce soir, nous convoyagerons de Moncey jusqu'à Bourg-en-Bresse. Sur 10 voitures, une seule contient un des passagers en plus du conducteur. Serais-tu ce passager comme ce samedi 15 décembre 2018, par exemple?
C'est exactement ça. Eh bien, écoute, je vais essayer de t'en dire un petit peu plus, Michel. J'avais donné rendez-vous à un ami au feu de Saint-Denis-les-Bourgs, vous savez, juste devant le Crédit Agricole. C'était un jour de semaine, un peu avant 17h30, et en l'attendant, je me suis livré à une observation qui m'a beaucoup appris et que je viens vous partager ce soir. Dans cette file ininterrompue de voitures qui quittaient Bourg-en-Bresse en direction de Corgenon et des villages alentours, j'ai découvert étonné qu'il n'y avait le plus souvent qu'un seul passager par voiture. Pourtant, nous n'avons jamais autant entendu parler de covoiturage, d'économie énergétique. En me renseignant, j'ai appris que sur Journan, une expérience en cours faisant la promotion de ce même covoiturage semblait porter ses fruits. J'ai rencontré son initiateur, Jacques Tout-le-Monde, et celui-ci m'a convaincu en commençant notre entretien par ces mots. Quand nous habitons la campagne, nous sommes totalement dépendants de nos voitures et nous sommes seuls dedans. La voiture aujourd'hui, bonjour la solitude. Bonjour la dépense également. Moi je fais la grimace à chaque plein d'essence, et vous? Le pire, c'est que le plein d'essence est l'arbre qui cache la forêt. Le carburant représente seulement un tiers de ce que nous coûte notre voiture. Et le pire du pire, c'est qu'une voiture ne suffit pas. Il y a souvent deux voitures par maison. Cela semblait couler de source. Il a poursuivi. On estime que les déplacements en voiture des 135 000 habitants de notre communauté d'agglos produisent 160 000 tonnes de CO2 par an, dont les trois quarts sont émises par les familles qui résident en périphérie. Or, les habitants de la périphérie sont de plus en plus nombreux, qui habitent de plus en plus loin et qui roulent dans des voitures de plus en plus grosses. Résultat, nos émissions de CO2 grimpent en flèche, alors que nous devrions les diviser par 4 ou même les supprimer complètement pour laisser une planète habitable à nos petits-enfants. Bon, il était bien gentil ce monsieur, mais que proposait-il pour régler ce problème, à première vue insoluble? Il a repris. La voiture partagée, plus on la partage, plus on réduit les embouteillages, moins on dépense et moins on pollue. J'ai tenté de jouer les avocats du diable. Dites-moi, monsieur tout le monde, dans l'absolu, vous avez raison. Mais comment peut-on mettre en place un tel système au niveau d'un village, de la Bresse par exemple, là où nos maisons et nos activités sont éparpillées, où nos horaires sont variables et souvent imprévisibles? Convaincu de longue date par son action en faveur du covoiturage, il m'a répondu. Il faudrait que le passager puisse partir avec un conducteur le matin et revenir avec un autre conducteur le soir, et qu'il puisse trouver un conducteur à la dernière minute quand une réunion se prolonge par exemple. Tout ça va devenir possible grâce au covoiturage instantané. Étonné, je lui ai demandé de m'en dire plus. C'est une application de téléphone mobile qui permet de rechercher un covoitureur à la dernière minute. Le système a été développé à Bordeaux, il vient d'être lancé à Rennes, à Besançon, à Aix-les-Bains, et il va arriver chez nous à Bourg-en-Bresse en quelques mois. Il fera partie des nouveaux services de transport gérés par notre communauté d'agglomération. Un énorme avantage de cette formule est qu'elle permettrait à un ménage périurbain d'avoir une seule voiture au lieu de deux. Une personne conduit la voiture de la famille et embarque des passagers en chemin, tandis que l'autre devient passager dans les voitures circulant sur la route. Et cerise sur le gâteau, il reste des places libres pour un papy, une mamie qui ne peuvent plus conduire ou pour un jeune qui ne sait pas comment aller chez son maître d'apprentissage. Effectivement, l'argument devenait imparable. Convaincu par les arguments de ce monsieur très enthousiaste, et une fois revenu dans mon village, je suis allé frapper à la porte de mes connaissances. Et si nous organisions une soirée autour de ce thème? À quelques-uns, nous avons rédigé un papier d'information que nous avons illustré, puis avec l'accord du conseil municipal, distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village de Moncey. Et c'est ainsi que le vendredi 11 janvier, il y a juste 10 jours, dans la salle communale de mon village, 22 Montcelliens et Montcelliennes se sont réunis. Jacques était là pour nous partager son expérience. Et à l'issue de la soirée, une première liste de 10 personnes s'est constituée. Et le lendemain même, le système devenait opérationnel. J'ai bien sûr voulu vérifier que cela fonctionnait. J'ai donc lancé un premier appel. J'ai adressé par courriel à l'adresse de la plateforme automatique le message suivant. Quelqu'un pourrait-il acheminer Jean-Louis Gaillet lundi matin avant 10h de Moncey à la préfecture de Bourg-en-Bresse? Et quelqu'un pourrait-il le véhiculer ce même jour à partir de 15h de Bourg-en-Bresse à Moncey? Pendant le week-end, 4 personnes me contactaient en me disant que c'était possible. Et c'est ainsi que le lundi 14 janvier, j'ai inauguré avec succès notre initiative de création d'un réseau de covoiturage sur Moncey. Puisque cela a été si facile à mettre en place sur notre village, vous qui m'écoutez dans la couronne périurbaine de Bourg-en-Bresse, pourquoi ne lanceriez-vous pas à votre tour une telle initiative ?
Effectivement. Merci Jean-Louis. Pierre Kéroul, amassera-t-il de la mousse ? Cette initiative donnera-t-elle des idées à d'autres conducteurs et covoitureurs? Espérons que ce nouveau système sera utilisé par bon nombre de Montcelliennes et de Montcelliens. Réponse dans les prochaines semaines.
On est arrivé sac au dos à 8h. Avec Olivier et Margot et Peter, c'était le grand départ vers le sud et vers les vacances. On trouvera, je pense, une auto avant ce soir. Porte d'Orléans, résigné, un peu pâle. Près de 400 en juillet, c'est normal. 400 comme nous poussant l'air avec des guitares. La nuit tombe tard, mais quand même, installons-nous. Alors on a monté la tente sur le bord du trottoir, en se disant déjà qu'il vente, il pourrait bien pleuvoir. 4 jours plus tard, on était toujours là, avec des guitares abritées, pourquoi pas. Avec un verre de vin chaque fois que quelqu'un s'arrête. C'était pas la fête, mais enfin, on était bien. C'est, je crois, le 13 au matin qu'une auto a pris 2 Anglaises, un marin et Margot. Nous, on est restés là, heureusement que nos 2 voisines ont fait la cuisine. Dans le fond, c'est mieux comme ça. Et on a remonté la tente plus loin sur le trottoir, en se disant déjà qu'il vente, il pourrait bien pleuvoir. 15 jours plus tard, on était toujours là, presque à bout d'espoir, quand un car s'arrêta. 15 jours pour partir quand on n'a qu'un mois de vacances. On n'aura, je pense, pas le temps de revenir. Et on a fini nos vacances sur le bord d'un trottoir. Quand on a dit c'est ça la France, il s'est mis à pleuvoir.
Après avoir, comme Maxime Le Forestier, covoituré en autostop jusqu'à Bourg-en-Bresse, nous retournons du côté de Radio B où nous attendons la directrice. Elle lâche pendant quelques minutes ses dossiers et ses demandes de subventions dont elle a seule le secret, pour évoquer avec nous 2 de ses préoccupations du moment. Alors, si vous l'écoutez dans la Fabrique de la Culture le dernier mercredi du mois à 18h, ou dans À vous les Burgiens le lundi à 17h15, vous avez pu vous rendre compte de son engagement féministe, mais pas seulement. Depuis quelques semaines, elle arpente les rues de Bourg-en-Bresse le samedi après-midi et a pu se rendre compte qu'il y avait des fachos, mais pas uniquement du côté des gilets jaunes. 2019 ne serait pas-elle l'année des keufs plutôt que des meufs? Elodie, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir est comme Cyril Hanouna, hein, tu nous apprends que 2019...
J'ai peur là.
Et tu nous apprends que 2019 sera l'année de la meuf et du jaune, mais pour d'autres raisons.
2019, effectivement, année de la meuf. Et oui, après avoir tous été au taquet sur 2018, année de la... Bip. Ok, 2019, c'est enfin l'année de la consécration pour nous les femmes. 2019, année de la meuf et du jaune. Parce que oui, mesdames, elle, Biba Magazine et Vogue le confirment, le jaune sera encore à la mode pour la collection printemps-été. Alors, on n'est pas obligé de suivre la mode surtout. On peut éviter par exemple le retour du cycliste ou du crochet. Vous savez, comme le maillot de bain de Loana quand elle a gagné Love Story. Rassurez-vous mesdames, que vous soyez brune, blonde ou rousse, le jaune va à tout le monde. Alors attention au fashion faux pas, la palette de jaune est large. Il faudra choisir pour cette année le jaune canari. Mais au fait, les magazines féminins s'interrogent. Et oui, ça arrive. Comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de jaune dans notre garde-robe? Eh bien, j'ai l'explication. Enfin, pas moi, parce que moi, j'adore le jaune, c'est même ma couleur préférée. Mais je fais partie des seulement 6% de la population qui déclare aimer cette couleur. Michel Pastoureau est spécialiste de la question. Il explique très brillamment que le jaune, c'est la couleur du mensonge et de la trahison. Elle est associée à des choses négatives. Bah ouais, si vous regardez bien les tableaux représentant Jésus lors de son dernier repas, et que vous cherchez Judas, ben c'est facile, il est en jaune. Pendant les grèves, ceux qui ne suivaient pas les syndicats, rappelez-vous, c'était les jaunes. Alors le jaune prend une dimension hyper actuelle aujourd'hui. Il est partout, dans les magazines féminins et dans les boutiques, mais aussi dans la rue. Je parle bien évidemment des gilets jaunes et de ces citoyens qui utilisent le fluo pour montrer leur désespoir. Parmi eux, des femmes qui ont des choses à dire, à revendiquer. Elles ont d'ailleurs manifesté sans les hommes début janvier. Vous les avez entendus tout à l'heure dans « À vous les Burgiens » ou dans « Y'a pas que le 8 mars ». Et une autre femme à suivre de l'autre côté de l'Atlantique cette fois-ci. Elle s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez et c'est la plus jeune élue du Congrès américain. Elle a 29 ans. Elle est située très à gauche chez les démocrates. Elle avait soutenu Bernie Sanders face à Hillary Clinton. Et elle a basé sa campagne dans le Bronx sur des revendications sociales, comme la sécurité sociale pour tous, l'abolition de la politique d'immigration menée par Trump ou encore la fin de la relation des élus aux multinationales. Et vous allez voir où je veux en venir. Alexandria Ocasio-Cortez est une véritable étoile montante puisqu'en quelques mois, elle s'est imposée au système politique américain. Et elle a mené sa campagne en violet et
en jaune.
Adepte des réseaux sociaux et pro de la communication, Alexandria Ocasio-Cortez, vous pouvez l'appeler AOC, a aussi l'esprit d'équipe. Sur son compte Instagram, elle ne manque jamais une occasion de saluer ses autres femmes qui vont secouer le Congrès. Rachida Tlaib, d'origine palestinienne, et Ilhan Omar, d'origine somalienne, les deux premières femmes musulmanes à entrer au Congrès. Ou encore Deb Haaland, la première femme amérindienne élue. 2019, l'année de la meuf. Et celle-ci, on l'entend partout. Elle s'appelle Angèle. Elle a 23 ans et elle distille sa douce voix et ses textes percutants sur nos ondes depuis quelques mois. Angèle, c'est une fille de, la sœur de Romeo Elvis, rappeur qui cartonne. Mais elle est bien plus que ça. Elle incarne la fraîcheur et l'intelligence d'une jeunesse qui ne s'en laisse pas compter. Un peu comme ces jeunes femmes que Radio B et le Photoclub Bressan mettront à l'honneur dans l'exposition « Féminitude » en mai 2019. Le titre d'Angèle, « La Thune », allez regarder le clip, vous verrez que j'avais raison. 2019, année de la meuf et du jaune.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? Tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. J'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va fais partie de ces gens-là. Rassurée quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi?
Tout le monde, il veut la thune, la fame. C'est aussi ça que tu veux, Elodie ?
Bien sûr, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de gloire. J'espère que c'est arrivé dès ce soir.
Dites-le à son patron.
Envoyez-moi des petits mots d'amour.
2019 sera-t-elle ton année ?
Bah ouais, année de la meuf, ouais. Michel. Hein, t'as avec... pas écouté ou quoi ?
Oui, avec ou sans gilet jaune ?
Ah bah ça, c'est ma vie privée.
Voilà, bon, nous devrions...
Elle a un très joli manteau jaune.
C'est vrai, oui, oui. Une... Ouais. Bon, nous devrions le savoir très bientôt, en tout cas en écoutant À vous les Burgiens le lundi à 17h15.
Oui, lundi prochain, parlera du maintien de l'ordre à Bourg-en-Bresse dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes.
Bien, on parlait de Gilets jaunes, figurez-vous que Rémi en porte un régulièrement. Non pas qu'il arpente à tous les samedis les rues de Bourg-en-Bresse, mais Rémi fait du vélo. C'est un fan de la petite reine et il en parle souvent dans sa chronique qu'il anime avec Cynthia le premier mercredi du mois à 7h30, 8h30 et...
midi 30.
Voilà, la parentèle enchantée. Ainsi, il explique à tous les parents perdus les bonnes façons de transporter son bébé. Comme Skippy avec la poche kangourou, gourou, à la circassienne, assis sur les épaules, dans la poussette, naissance ou canne, ou sur le porte-bagages du vélo de papa et maman. Quel mode préfère-t-il ? Rémi, bonsoir.
Salut Michel, bonne année.
Ce soir, tu poses ton regard sur un habit que portent de plus en plus de cyclistes, le gilet jaune.
Tout à fait, moi j'en porte pas, contrairement à ce que tu as pu dire. Mais toi, tu faisais du vélo ? T'en as fait du vélo, Michel ?
Bah oui, moi quand j'étais jeune.
Quand t'étais jeune. T'étais plutôt du genre Bernard Hinault ou Richard Viringue, toi ?
Ah, moi j'étais Bernard Thévenet.
Ah.
Ça tombe mal, hein ?
C'est dire s'il est
vieux. Ouais, c'est vrai.
Ah, c'est dire si je suis vieux, ouais.
Du coup, ça te parle un petit peu quand même, toi, le gilet jaune ? Le maillot jaune, gilet jaune, ça te parle ?
Oui, bah j'ai jamais. Ouais. Deux fois. Deux Tours de France quand même, oui.
Ouais. La
caravane du Tour ?
Du Tour ?
Non, jamais. Allons. Je mangeais pas de saucisson.
Eh ben écoute, moi, la couleur de l'année 2019, ça me parle. Mais ça me parle mal. Pas parce que je suis daltonien et prof et qu'au niveau de ma tenue vestimentaire, j'ai pas mon mot à dire.
Ah bah oui.
Enfin, si, on peut le dire. Okay. Un prof qui s'habille bien, c'est parce qu'il part à la retraite. Hein. Le gilet jaune, donc, puisque c'est la couleur de cette année du neuf, quand il ne tourne pas en rond, point d'hésitation. C'est sur les cyclistes qu'on le rencontre le plus souvent. Soucieux d'être visible et d'être en sécurité, le cycliste se sent armé d'une carapace et les voitures qui balancent de l'EPO, explosif pétrole onéreux, par le pot d'échappement, considèrent ce gilet comme une carrosserie. Ce sentiment de sécurité est en fait bien plus fort que la sécurité réelle apportée. Pensez-vous. Depuis plus d'un siècle qu'on fait du vélo, on aurait trouvé seulement maintenant le moyen de réduire l'accidentologie des cycles ? Non, bien évidemment. Ce n'est pas hier qu'on a inventé les catadiopres. Quelqu'un sait ce que c'est que les catadiopres ?
Ça me rappelle des souvenirs de cours de physique périmés. Hein.
Des petites lumières rouges.
Les catadiopres, c'est ça. C'est pas des lumières, c'est des petits réflecteurs installés sur les roues et sur les pédales et qui sont obligatoires. C'est l'un des seuls équipements obligatoires sur un vélo. Mais pour être visible, en fait, il faut davantage émettre de la lumière qu'en réfléchir. Et cela est d'autant plus vrai sur route non éclairée. Le gilet jaune qui a la cote et que tout le monde s'arrache ne fait que réfléchir. Si vous traversez la forêt de Seillon à 18h et que l'automobiliste qui arrive derrière vous n'a pas allumé ses feux, le bénéfice du gilet jaune sera nul. Et de nuit, c'est la même rengaine si les phares des véhicules sont mal réglés. Mieux encore, Si vous vous engagez dans une rue à contresens, qui est de toute façon à double sens cyclable dans une zone 30, c'est la norme depuis 2010, tu le savais, Michel? Oui,
oui, oui.
Depuis 2010, toutes les rues à sens unique sont en fait à contresens cyclable. Dans une rue à contresens, donc, vous pouvez très bien ne pas être visible, même avec un gilet jaune, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gilets jaunes qui n'ont des bandes réfléchissantes qu'à l'arrière. Donc, pour être visible, il faut émettre un signal lumineux direct. Sur la mer ou sur la terre, on ne s'est pas amusé à peindre les bateaux ou les avions en jaune, avec des bandes réfléchissantes. Non.
Ce serait tellement joli.
Ce serait joli, du jaune sur la plage. Mais... Non, on a simplement décidé de mettre un phare clignotant. Sur un vélo, un phare clignotant ou fixe, blanc à l'avant, rouge à l'arrière, ça reste le meilleur moyen en fait, d'être vu. Et accessoirement, de voir aussi quand il fait vraiment nuit. Bon, si l'objectif est d'être vu en pleine journée, il n'y a normalement pas de raison de s'inquiéter. Les titulaires du permis rose sont tenus de circuler en gardant les yeux ouverts. Le conducteur qui ne verrait pas un cycliste en circulation serait plutôt invité à profiter de la deuxième paire offerte chez Alain l'opticien. Car si aujourd'hui il ne voit pas le vélo, demain ce sera peut-être la poussette sur le passage piéton qu'il ne verra pas. Un salut amical à la portière qui a tenté de me guillotiner ce matin quand je chevauchais mon fidèle destrier, boulevard de Brou, à 7h et qui ne m'aurait pas vu davantage avec un gilet jaune.
7h ?
7h, oui, je suis précoce, moi, oui. Vouloir à tout prix mettre un gilet jaune sur un cycliste, c'est d'une certaine façon montrer que rouler en vélo, c'est dangereux et qu'il ne faut pas trop le faire, car sinon, il va falloir construire des infrastructures pour les deux roues non motorisées, et ça coûte un pognon de dingue. Je finirai ma chronique par la phrase d'un grand penseur du XXIe siècle. Cherchez tous qui est-ce que ça peut être, ce grand penseur du XXe siècle. Il a dit, si vous me croisez en vélo, surtout, ne me doublez pas.
Cyril Hanouna?
Coûterait mieux.
Richard Virenque.
Je pense à Emmanuel Macron.
Sarkozy.
Nicolas Sarkozy en vacances qui faisait du vélo avec un autre grand Michel.
Je voulais proposer Charles Vieudrin aussi, mais bon. Ouais.
Alors, 2019, année du jaune, mais année allumée.
Merci Rémi de nous avoir transporté sur le porte-bagages de ton vélo.
Piéton.
Ce que je demande n'est pas difficile. Il me faut deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne à
piéton traversé. Incroyez-moi avec
Merci à Billy the Kick de m'avoir déposé à vélo au 18 rue Lazare Carnot. J'ouvre à nouveau la porte des studios de Radio B et je rejoins Sylvaine, notre attachée de promotion. Messages, publicités, partenariats associatifs et commercial, rien ne lui résiste. Pas même le carnet de Radio B où on la retrouve avec Théophile du lundi au samedi à 7h45, 8h45, 10h, 12h45 et 17h. Et le dimanche à 7h45, 8h45, 12h45 et 17h. Elle a tenu à mettre en pratique les conseils avisés de Benoît Bouscarel, à moins que cela ne soit pour montrer à Jean-Louis, l'autre Mayennais de l'émission, que Laval a eu aussi son heure de gloire, mais c'était en football. Sylviane, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Ce soir, tu as eu envie de mettre les petits plats dans les grands et l'eau à la bouche en évoquant ce qui pourrait bien se retrouver prochainement dans nos assiettes. Que dégustera-t-on en 2019? Quelles seront les tendances culinaires? Sylvaine, il est temps d'ouvrir notre futur livre de cuisine.
Tout à fait. Déjà 2019, avec ces nouvelles marottes, ces nouvelles tocades qui pointent le bout de leur nez et annoncent les tendances de demain. Si 2018 avait engagé le retour en force du local, du savoir-faire artisanal autour d'une jeune garde talentueuse, militante du bien-manger et créative, 2019 devrait confirmer la revalorisation de l'artisanat, du mieux-manger et d'une recherche de nouveaux modèles inspirants et cool. Une approche sexy et colorée devrait s'imposer avec l'ouverture vers de nouveaux horizons culinaires, exotiques et inspirants. Un engouement pour le sans-alcool, mieux travaillé et plus élaboré devrait exploser. Zoom sur 5 tendances culinaires qui vont nous donner envie de passer à table. Connaissez-vous la sapote noire? C'est un fruit au goût de chocolat. Un fruit au goût de chocolat. Ouais, c'est trop beau pour être vrai. La sapote noire est un fruit de la forme d'une tomate, originaire du Mexique et du Guatemala, qui ressemble à première vue à un kaki vert. Son intérieur est crémeux et procure en même temps un plaisir hypocalorique avec un goût de crème au chocolat. C'est pourquoi on l'appelle aussi souvent le fruit chocolat. Sa chair peut être mangée directement à la cuillère. Ce fruit est aussi très bon à déguster avec du lait, étalé sur du pain ou dans des muesli. Jusqu'à présent, on ne le trouve que dans quelques épiceries fines. Nous espérons que cela changera bientôt. Passons à autre chose, à la recherche d'une nouvelle source de protéines, les insectes à grignoter. Criquets, blattes, grillons ou cafards, les insectes apparaissent de plus en plus comme un choix judicieux. Ils sont riches en protéines, contiennent des vitamines, des minéraux et sont disponibles en grande quantité. En plus des insectes burgers ou des barres d'insectes, il existe de la poudre d'insectes pour enrichir les boissons ou les plats. Les insectes deviendront-ils notre nouvelle viande cette année?
Ça fait envie.
N'est-ce pas? Pour avoir tenté l'expérience, le goût et la consistance ne sont pas désagréables. Alors, amateurs de découvertes, tentez l'aventure, vous serez étonnés et non traumatisés. Dans un autre registre, les pailles comestibles. Pour une planète plus saine, chaque année, des milliards de pailles en plastique atterrissent dans nos océans. Pour lutter contre la pollution de l'environnement, des alternatives plus propres et respectueuses de l'environnement sont recherchées. Il existe des pailles en métal, en bambou ou en verre, et des pailles comestibles. Vous pouvez déjà vous procurer sur Internet des pailles à base de marc de pomme. Ces pailles sont non seulement durables, mais aussi fruitées avec un fameux goût de pomme. Un encas délicieux pour accompagner votre boisson. Et vous trouverez également, dans de plus en plus de cafés et de restaurants, des pailles à base de pâtes, tout simplement. L'eau qui se mange, ça vous parle?
Non. Ça s'appelle de la glace, non?
Non. C'est pas de celle-là que je vais parler. C'est une bulle de 4 centilitres d'eau, l'équivalent d'une gorgée, solidifiée par un mélange de gélatine et de calcium. On peut la boire en perçant la membrane ou en la gobant tout entière. Inspirée d'un processus breveté par le géant de l'agroalimentaire Unilever, Le projet est porté par une start-up londonienne fondée par 3 étudiants, dont un Français. La bulle est encore à l'état de prototype, mais remporte une large adhésion sur les réseaux sociaux. 75 millions de vues sur YouTube tout de même. L'ambition, remplacer les bouteilles en plastique par des grappes de bulles retenues dans une enveloppe biodégradable. Amateur d'eau, à suivre. Et pour terminer, je vais vous parler d'une plante plus connue pour ses propriétés psychotropes que pour ses qualités culinaires. Le cannabis. Personne n'a échappé à l'ascension du cannabis dans l'industrie culinaire. Des entreprises de boissons aux chefs, tous cherchent cet ingrédient pour infuser différents produits. Ce qui intéresse, c'est le potentiel du cannabis et les nouvelles saveurs qu'il pourrait apporter en cuisine. On parle d'extraire le terpène, les huiles naturelles ou les souches de CBD séchées. Ces souches n'ont pas les propriétés psychoactives du THC, du cannabis, et pourraient ouvrir une nouvelle palette de saveurs. Imaginez un peu fraises, bananes, mûres, citron, orange, le tout avec des notes sucrées, poivrées et épicées que l'on retrouve dans les milliers de variétés du cannabis.
Ça me fait penser au Beaujolais.
Oui.
Le bon. Hein.
Le bon, oui. Alors, pour 2019, je vous souhaite, chers auditeurs, de jolis voyages culinaires.
Merci Sylvaine. Il ne te reste plus qu'à nous faire goûter ces nouveaux plats. Nous en salivons d'avance.
Pour commencer, déjeune depuis un entier à foutis. 125 grammes de sucre mélangé, voilà. Est-ce que t'aimes mes clafoutis, mon amour? Regarde celui-là comme il est cuit tout autour. Dis, est-ce que tu l'aimes avec de la crème ou avec son coulis de fraises des bois? Qu'il soit aux cerises, aux abricots, à ta guise, sans les noyaux, ça n'est jamais assez bien, ça manque toujours un peu d'un truc. Alors quand bien même je trouverai la recette du clafoutis parfait que je fais à plat même sans les mains, et ben t'aurais plus faim. Bon, ajouter 50 grammes de beurre fondu, 80 de farine et du sucre vanillé. Dis, est-ce que t'aimes mes clafoutis? Je sais c'est con, tu les manges mais jamais ne dis putain c'est bon. Alors j'améliore et j'affine encore, je ne l'ai fait que pour te plaire avec tout l'amour d'un Flaubert, tu vois. Mais clafoutis c'est moi. Aux abricots, à ta guise, sans les noyaux, ça n'est jamais assez bien, ça me manque toujours un peu d'un truc, hein. Alors quand bien même je trouverai la recette clafoutis parfait que je fais à plat même sans les mains, et ben t'aurais plus faim. Tu aimes les pommes, alors je mets des pommes, verser la pâte, un peu de rhum, enfourner. Dis, est-ce que t'aimes mes clafoutis? Tu veux des crêpes? D'accord, mais dis-moi ma chérie, comment les crêpes? Les veux-tu nature, à la confiture? Tiens, justement, j'ai fait quelques pots aux figues, aux coins, aux fraises archibio. Hélas, pas aux ananas. Aux abricots, à ta guise, sans les noyaux, ça n'est jamais assez bien, ça me manque toujours un peu d'un truc, hein. Alors quand bien même je trouverai la recette du clafoutis parfait que je fais hop là même sans les mains, et ben t'aurais plus faim. Qu'il soit aux cerises, aux abricots, à ta guise, sans les noyaux, ça n'est jamais assez bien, ça me manque toujours un peu d'un truc, hein. Alors quand bien même je trouverai la recette
clafoutis parfait que je fais, hop là, même sans les mains et pas.
Un clafoutis qui devrait ravir les prochains stagiaires de Radio B. Et qui dit stagiaire dit formation, et qui dit formation dit école. Et qui dit école dit parents d'élèves. À Radio B, nous avons des adhérents parents d'élèves. Eh oui. Pas encore en âge d'être scolarisés, certes, des bisous à Lou et Ismaël en passant. Et nous avons aussi quelques parents d'élèves. L'un d'entre eux, Alexandre, est même vice-président du conseil départemental de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Il sévit même sur nos ondes et propose une chronique le 2e et 4e mercredi de chaque mois à 7h55, 8h55 et...
12h55.
La minute du parent d'élève donne des informations essentielles pour la bonne scolarité de vos enfants. Une chronique trompeuse puisqu'elle dure plus d'une minute. Mais quand on aime, on ne compte pas. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Qui dit école dit lycée, qu'il soit hôtelier, technologique ou général. Vous avez toutes et tous entendu parler de cette énième réforme du lycée. Pas sûr que la définition du mot réforme, changer en mieux, soit respectée, à moins de n'avoir pas tout compris. Mais laissons-nous conduire vers ce nouveau lycée avec notre spécialiste de l'école, le Jean-Michel Blanquer de Radio B. J'ai nommé Alexandre.
Oui, Michel, l'heure est grave. Nous allons bientôt prendre un coup de vieux. Celui que tu as déjà pris il y a un peu plus de 25 ans. À partir de la rentrée prochaine, les lycéens de première n'auront plus de spécialité. Le bac 2020 sera la dernière sous la forme que beaucoup connaissent avec les séries L, ES, S, STI, STT. Ça avait déjà changé par rapport à tes années lycée, où il y avait les bacs A, B, C, D, E, F, avec pour certains un numéro après la lettre.
Je ne parle même pas de mes années à moi.
F1, F2, F3. Quand j'ai passé le bac en 95, j'ai fait partie des premiers à passer un bac STI. Tout comme ceux qui ont inauguré les bacs L, S et ES. Alors, ce qui va changer par rapport à 95, c'est la volonté de faire un même diplôme pour tous. La différence se fera avec les options choisies, qui seront aussi un élément de la sélection post-bac pour le dispositif Parcoursup. Avec la refonte de ce bon vieux bac qui avait été créé dans les universités au XIIIe siècle, et bien modifié sous Napoléon, entre autres, on change tout. On avait les épreuves en fin de terminale et de première pour le français et l'histoire de certaines séries. Ça, c'est ce que tout le monde a connu. À partir de l'an prochain, l'examen se déroulera pendant 2 ans. Des épreuves communes en fin de chaque trimestre, un peu comme les partiels pour les étudiants. Le contrôle continu fera aussi partie de l'épreuve, ce qui pose 2 problèmes. Le premier, la sincérité, quand on sait que certains n'hésitent pas à gonfler les notes des collégiens pour obtenir plus facilement le brevet. Mais surtout, le 2e point, les contrôles en classe. Ça sert aussi à évaluer ce que les élèves ont acquis ou pas pour être prêts pour les épreuves finales au bac. C'est comme si, dans une épreuve de patinage artistique, par exemple, les juges notaient les entraînements des athlètes et que ces notes comptaient pour l'épreuve des Jeux Olympiques. Bon, pour en revenir à la composition de ce nouveau bac, en plus du contrôle continu et des partiels, il y aura des épreuves finales. En première, une spécialité L français, toujours à l'écrit et à l'oral. Ça change pas. En terminale, les épreuves finales des 2 autres spécialités qui se dérouleront en avril. En juin, on aura la philo et le grand oral qui devra être préparé en mai. Mais hélas, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. Alors, comme le bac change, l'enseignement en seconde change aussi. Fini les enseignements d'exploration. L'économie passe dans le tronc commun, donc ça sera pour tout le monde. On aura une nouvelle matière qui sera sciences numériques et technologies. Alors maintenant, le plus important, 1 point sur les heures en première en terminale. Il y aura 16 heures d'enseignement du tronc commun, plus 12 heures d'options. Au passage, les maths, ça devient une option. On voit bien que les élèves feront moins d'heures. Donc, moins d'heures d'enseignement pour les profs, plus la 2e heure sup obligatoire. Au final, comme pour le passage à 4 jours sous Sarkozy, avait supprimé plus de 4000 postes d'enseignement RASED. La réforme du bac et du lycée ne sont qu'un prétexte pour diminuer encore le nombre d'enseignants, sans forcément se préoccuper du niveau de nos chères têtes blondes et surtout de leur avenir.
Merci Jean-Michel, merci Alexandre de nous avoir rassurés sur cette nouvelle version du lycée en France. Il me semblait bien qu'il y avait trop de professeurs.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un Brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira, bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième. Il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire racketter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira, bande de fonctionnaires, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler, les pauvres chéris faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira, bande de surpayés, vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir l'élever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place, pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est faite agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.
Amis professeurs du second cycle des études secondaires, bon courage pour cette nouvelle réforme qui ne devrait pas vous réconcilier avec votre hiérarchie. Un lycée que notre dernière chroniqueuse ne reconnaîtrait plus et que, je tiens à la rassurer, elle n'est pas la seule dans cette pièce. Et dans cette radio qu'elle a vu grandir depuis ses débuts, ou presque. Désormais, Marie, notre coprésidente, copréside, décidément c'est une habitude chez elle, l'émission Vendeste avec Gérard, un mercredi sur deux de 19h à 20h. Un titre trompeur pour cette fan de flyer du Québec comme Claude Pelgag et Kate Kounag, et qui part souvent à l'ouest de la France, je précise. Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Tu as tenu contre vents et marées parfois une chronique à la saison dernière, Merci qui ? Merci Wiki. Un éphéméride original à base d'informations de notre ami Wikipédia, que l'on salue, n'est-ce pas Tonio ? Si pour certaines, 2019 est l'année de la meuf, il s'agit pour toi de te replonger dans le monde merveilleux de cette encyclopédie. Auras-tu pensé à annoncer le 50e anniversaire du 5e titre de champion de l'AS Saint-Etienne ou le 37e anniversaire de Radio B? Marie, la DeLorean Duodoc, t'attend.
Excellent. 2019, après l'année de la meuf, moi, pour moi, c'est l'année du neuf, mais qu'on va faire avec du vieux. Alors, pour l'occasion, j'ai recoiffé, comme tu l'as dit, ma casquette de wikilologue ou de wikilophile ou bien de wikilosophe, c'est comme vous voulez. Bref, j'ai replongé dans les 2 074 000 articles de Wikipédia pour voir quels anniversaires on célébrera en cette année 2019. Et je n'ai pas été déçue de ce voyage dans le temps. Dans le désordre, cette année, on fêtera ou pas les 230 ans de la Révolution française et les 20 ans de l'euro, les 500 ans du château de Chambord et les 30 ans de la pyramide du Louvre, le demi-millénaire du Tour du Monde de Magellan et les 20 ans du naufrage de l'Erika, les 150 ans de la naissance de Matisse et les 90 ans de Tintin,
et Milou,
les 100 ans du traité de Versailles mettant fin à la guerre de 14-18 et les 80 ans du début de la Deuxième Guerre mondiale, les 60 ans de l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à Cuba et ceux de la poupée Barbie, le 70e anniversaire de la République populaire de Chine et les 30 ans de Tiananmen, le 110e anniversaire des auberges de jeunesse et les 20 ans de la fusillade de Columbine, les 50 ans du PS et les 90 ans de Régine.
Ce sera peut-être les derniers. Hein.
Oui. Les 130 ans de l'érection de la Tour Eiffel et les 30 ans de la chute du mur de Berlin, les 10 ans de la mort d'Alain Bachung et les 70 ans d'Yves Duteil, les 40 ans de l'intervention soviétique en Afghanistan et les 20 ans de l'élection de Poutine à la tête de la Russie. Alors on célébrait hier les 10 ans de l'intronisation de Barack Obama comme président des USA et le 25 juin ce seront les 10 ans de la disparition de Michael Jackson. Enfin, et sans que cette longue liste de célébrations ne soit exhaustive, 2019 verra le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune et les 50 ans du festival de Woodstock. Alors, est-ce une overdose de dates ou le fait d'avoir évoqué Woodstock et son ambiance un peu hallucinatoire? On parlait du cannabis tout à l'heure. Toujours est-il qu'après avoir compilé tous ces anniversaires, j'ai eu une nuit un peu agitée. Dans mon rêve, Tintin troquait Moulinsart pour le château de Chambord, Régine était tête de liste au PS pour les européennes, Poutine chantait torse nu à Woodstock après avoir tué un tigre avec les dents, Castro jouait très mal du violoncelle devant le mur de Berlin, Yves Duteil, le pauvre, mourait englué dans le pétrole de l'Erika, Alain Bachung tenait tête au char de Tiananmen en demandant « c'est comment qu'on freine ?» Les avions soviétiques larguaient des poupées Barbie sur Kaboul, Barack Obama escaladait la Tour Eiffel à main nue et Michael Jackson esquissait un moonwalk avec Neil Armstrong près de la mer de la tranquillité. Je crois qu'il faut que j'arrête de Wikipédia, moi.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
Michael Jackson, nous étions en 1979. Merci Marie de nous avoir fait voyager à travers le temps qui passe. 2019, vu par l'équipe de Radio B, s'achève. Merci à Cynthia, Jean-Louis, Élodie, Rémi, Sylvaine, Alexandre et Marie. Pour ce futur état des lieux, merci à Pauline pour la réalisation et puis ta disponibilité. 2019 tiendra-t-elle ses promesses? Plus que 344 jours et nous serons fixés. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles. Place tout de suite à, tout d'abord, bonsoir messieurs.
Ouais, bonsoir Michel.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir. Bah, quand même, et bonne année.
Oui, on n'est plus que trois. Place tout de suite à l'émission Ping Pong avec Captain, Electro, Hip Hop, Offbeat et Future Beats. Tout un programme. Il est là, Captain. Captain.
Bonsoir, Captain.
Captain.
Bonsoir.
Captain, est-il toujours aussi sensible?
Bah, toujours, écoute, hein, j'ai entendu que l'année 2019, c'est l'année de la meuf, mais aussi de l'année de la teuf. Alors on va commencer ce soir.
Hein. Et ben voilà. Allez,
attention que ça soit pas l'année de l'œuf. Hein.
Allez, c'est parti. Bonne soirée à toutes
et à tous. Ou l'année des keufs.